Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel Chartres, L'Or des Curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Aujourd'hui, premier volet d'une émission en deux temps est consacré à l'une de mes grandes admirations en musique. Mais je ne vous en dis pas plus. Simplement, je l'aborderai sous l'angle instrumental, voire instrumentiste, partant de sa guitare dans un premier temps. J'espère vous trouver en la meilleure des formes, cela malgré l'hiver qui commence à essayer de nous impressionner. Mais qu'importe, nous resterons droits, fiers, imperturbables, en bons chartrains que nous sommes. Allez, tout le monde sur le pont, paré à attaquer. Mais d'abord, à vous toutes et tous, un grand bonjour. Elle s'était comme glissée, immiscée dans ma vie à la fin des années 1960. J'allais fièrement vers mes 14 ans. Je m'étais rendu à Grenoble voir sur le campus un étudiant qui jouait du violon traditionnel irlandais et cherchait un guitariste pour l'accompagner. En arrivant, c'était déjà trop tard pour moi, un autre guitariste venait d'être choisi. Il était encore dans la place et figurez-vous, nous avons sympathisé tout de suite. Lui était désolé pour moi. Quant à moi, pour dire la chose au plus poliment que je le puisse, je m'en fichais totalement. Je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour l'esprit de compétition. Nous voilà donc partis à parler musique, guitare, et à nous dire nos goûts respectifs. À un moment, il me dit quelque chose comme « Il y a quelqu'un qui émerge aux USA en ce moment. Tu la connaîtras, c'est certain. Mais j'aimerais bien que tu la connaisses dès maintenant et par moi. » Il a sorti sa guitare de l'étui et m'a joué et chanté la première chanson de Johnny Mitchell que j'entendis jamais. Double choc. D'abord, il jouait sur une superbe guitare Martin modèle D28. Je n'en avais jamais vu en vrai, comme aurait pu dire le gamin que j'étais encore. Pas de publicité clandestine de ma part, dire qu'une Martin D28 est belle au point d'en incarner l'idée de beauté elle-même, c'est comme dire que le baiser d'Auguste Rodin peut incarner l'idée même de l'amour. Cela s'appelle une valeur morale. Le second choc, ce fut la musique elle-même, fluide à en être liquide par endroits, changeante, pleine de scintillements, de reflets, de ces miroirs dont parlait Maurice Ravel, qui commençait à m'obséder déjà. Des accords vraiment singuliers, comme l'était aussi son usage de la guitare, une approche quasi picturale de l'instrument. Tellement détaché de ces formalismes, de cette espèce de norme, de loi implicite et édictée par on ne sait qui, et qui voulait qu'un guitariste folk batte les cordes de sa guitare comme les ailes d'un moulin à blé battraient les airs, avec une régularité de métronome et sans s'éloigner jamais des quelques accords basiques qu'autorisait alors la police du style. Mais s'éloigner des codes, se proclamer rebelle, est en soi peu de chose. Si l'on est par ailleurs incapable de faire œuvre, ça reste un effet de manche, un effet d'annonce, pas grand-chose en définitive, voire rien du tout. On se doit de produire non seulement une esthétique particulière, mais plus encore une somme. Et ce qui parvint à mes oreilles ce jour-là était déjà une plénitude. Le monde harmonique et la mélodie vivaient par eux-mêmes, libres et non contraints par quelque application bornée de loi convenue. La guitare paraissait libérer, enrichir, embellir la voix qui, en retour, rendait plus crucial, plus sensible et présent le travail de la guitare. Se souvenir qu'avant elle, un auteur-compositeur choisissait la guitare pour des raisons utilitaires ou économiques. Avec trois accords, on faisait une musique. Pas de musicien à payer. Et le texte de la chanson tenait le tout. On le chantait avec les moyens du bord, en s'accompagnant à la « Va comme je te pousse ». Johnny Mitchell rendra le texte encore plus original, plus unique encore, mais développera un art vocal et musical très poussé. Il y avait avec elle le fait surprenant d'entendre clairement s'élever une pure et pleine subjectivité, d'entendre comme un psychisme se prendre tout d'un coup à chanter.
A king in a tenement castle. taken to painting the pastel walls brown. He's taken the curtains down. He's swept with the broom of content, and the rooms have an empty ring. He's cleaned with the tears of an actor who fears for the laughter steam.
La guitare de Joni Mitchell, lorsque je l'ai reçue pour la première fois, me fit l'effet d'une averse de couleurs. Je m'en suis délecté et me suis désintéressé totalement de savoir comment elle pouvait bien produire de telles sonorités, de telles harmonies. J'ai donc laissé à tous ces sortilèges tout le temps d'agir sur moi et me suis égaré avec délice dans cette forêt profonde. Joni Mitchell est l'une des plus grandes guitaristes qui soit. Maîtresse en harmonie et rythmicienne comme il en est peu. Son importance tient autant à la teneur, la nature, la qualité de son jeu qu'au fait qu'elle a établi un discours musical personnel et indissociable d'elle. Les artistes de cette époque proclamaient un désir de liberté en direction du monde. Joni Mitchell, elle, était preuve vivante d'une liberté tout intérieure, avérée, effective. Et sa musique rendait très réelle la beauté de cette forme plus intérieure de liberté. Ce qui m'a paru d'abord, c'est que la guitariste Joni Mitchell avait une battue et une assise de joueuse de dulcimer, instrument dont je jouais à l'époque, et dont elle jouait aussi magnifiquement. Je l'apprendrai un peu plus tard. Elle produisait d'amples surfaces harmoniques, ou bien des strates successives d'accords brefs, nerveux, se répondant, se reflétant l'un l'autre, ou bien créant des contrastes vifs, rapides, à vue d'enrichir, de complexifier la tonalité de base et la perception que nous en avions. Avec Joni Mitchell, il semblerait que la source de toute chose soit multiple, diverse, et qu'on prenne parfois aussi son opposé, son antithèse. Avec elle, rien n'est jamais linéaire, d'un seul tenant. Son chant est comme un soupir, mais qui réclamerait la force d'un Hercule pour pouvoir être émis, puis perçu. Elle ne forme pas sur la guitare l'accord comme un guitariste le fait. Elle semble plus considérer des ensembles, les faire se mouvoir les uns par rapport aux autres, faire des superpositions, créer des alliances sonores, des intrusions, créer l'entrechoc, les transmutations. Et je m'aperçois que je suis en train de vous dresser ici le portrait du chef d'orchestre parfait. Le chant de Joni Mitchell au milieu de tout ça ressemble parfois à une barque allant sur une eau certes claire, mais pas si tranquille que ça. Musicalement, Joni Mitchell m'évoque parfois Charles Ives, par-delà les questions du style bien sûr, ou alors Samuel Barber, ou Aaron Copland, surtout par sa musique de piano que nous verrons dans la deuxième émission. Sont tous des compositeurs de la première moitié du XXe siècle et tous indéniablement des modernes, héritiers de Stravinsky ou de Schoenberg, mais ayant toujours un pied profondément dans la terre et égrenant ce qui fait leur modernité avec parcimonie, retenue presque, ne cherchant jamais à démontrer, à provoquer. Chez Joni Mitchell, on trouve des dissonances, des accords totalement composites, des rythmes heurtés, des temps irréguliers, des cassures abruptes, soudaines, comme on en trouvera dans son écriture aussi. Dire que Joni Mitchell est une moderne, c'est proclamer l'évidence. Mais sa musique à proprement parler, le cœur de ce qu'elle produit, pourrait tout aussi bien provenir de l'Angleterre élisabéthaine que d'une lointaine Afrique. Et c'est précisément sur cette dualité qu'elle se révèle être on ne peut plus américaine. Revenons à sa guitare. Lorsqu'elle bat rythmiquement la guitare, elle n'effectue pas de cycle plein, régulier, n'établit aucune constante fixe. Elle creuse le temps et pratique un art de la syncope allusif, tout en retenue. Ça n'est pas la syncope du génial Steve Cropper, par exemple, guitariste du non moins génial Otis Redding, dont la syncope franche, directe, animale, visait à la transe. Avec Joni Mitchell, c'est plutôt le fait d'une diction, d'une rhétorique. Et pareillement, avec le texte, parfois elle laissera se perdre plusieurs mots dans le creux d'un souffle, et soudainement en éclairera, en expulsera un, qui donnera alors à l'ensemble le sens réel peut-être, mais plus important, ces mille autres possibilités hors le sens. Et on sait qu'un mot, c'est aussi une musique propre, des couleurs, des tonalités qu'il libère et développe. Joni Mitchell, comme je l'ai évoqué et fait entendre dans mon émission sur cet instrument, jouait du dulcimer. Or, le dulcimer est un instrument simple et voulu simple. C'est avant tout un art de l'évocation, de l'épure, du choix de l'essentiel. Il faut, par l'intelligence et le plus de sensibilité possible, y pallier au rudimentaire de l'instrument. Et c'est ici, en trouvant mille opportunités avec la voix, par des ajustements plus que judicieux et par pure intelligence du jeu, que Joni Mitchell se montre incroyablement effective et démontre la souplesse, la vivacité de son esprit musicien. Voyons à présent comment elle sert son texte et la structure, les courbes et la sonorité du vers par une voix sans limite et par une guitare sinuante, constamment en alerte et rétive à toute forme de rigidité. D'abord, The Pirate of Penance, suivi de Nathan Lafrenier, Joni Mitchell.
The pirate anchored on a Wednesday, and why he came to port I wonder, to see a lady, so my friends say. She dances for the sailors in a smoky cabaret bar underground, down in a cellar in a harbor town. I know he told her love was treasure, and they would reap the fullest bounty. He only comes to port for pleasure. So when the winds of morning blew the curtains and she woke and found he'd gone, I saw his sails unfurling Thursday dawn. The pirate, he will sink you with a kiss, he'll steal your heart and sail away. You leave you drowning in the thoughts of never broken promising the bait. They came again to see you, yes, I think they told me it was
Aspen's bait. Bait.
Out in I couldn't see them, I didn't see them. I don't believe what you are saying. It isn't true, I hardly knew him. Is this some game that you are playing? Go ask the dancer, she's the one who saw him last, the one who drew him here. He hasn't come to me since spring last year. There was a time when he would bring me silks and sandalwood and Persian lace. And he would hold me close and tell me sailing stories by the fireplace. I was at sea, I tell you, I was nowhere near the mentioned murder place.
Come and ask the dancer,
she knows the answer. She knows the answer.
Johnny Mitchell, vous l'aurez noté, joue beaucoup sur les volumes, le souffle retenu puis relâché et le naturel de la respiration musicale ainsi produite. Elle joue encore sur l'apparition, la disparition, les anfractuosités. Sa phrase a une richesse de tracé, de dessin sonore. Or, la ligne du chant et la timbralité de sa voix se développe aussi chez elle une sorte de qualité picturale de la phrase. Le mot dessine une courbe comme il le fait sur les crêtes des vues maîtres de la table de mixage. Il produit donc une existence physique visible que l'on tracera ensuite du bout de la mine de plomb d'une voix. On pourrait presque dire d'elle ce que l'on dit souvent devant un ouvrage d'architecture lorsqu'il est pleinement accompli. Quelle liberté! Et pourtant on y sent partout le dessin. Autant l'architecture dans son œuvre est omniprésente, autant elle sait nous offrir d'abstractions possibles. Si elle fut d'abord géolocalisée artiste folk, Joni Mitchell jamais ne fut la dupe ou la prisonnière d'aucune école. Concernant son jeu arpégé, ce que l'ultra-orthodoxie de l'époque qualifiait de « picking », nom abominable, piquant comme une mauvaise ortie, et signifiant tout aussi bien que vous jouiez d'un instrument ou étiez en train de cueillir les patates, et pourquoi pas se gratter le genou tant qu'on y est, Joni Mitchell, encore une fois, fera du petit bois avec les conventions et jettera le tout dans sa cheminée, car on le sait, l'hiver canadien est rude. Son arpège est très peu calé sur le temps. Il y flotte, joue avec lui, s'y soustrait parfois et construit la plus grosse part de son édifice en dehors de lui, sur ses limites. Comme chez tous les musiciens, chez Joni Mitchell, le temps est la loi fondatrice, le repère. Mais avec elle, on ne le laissera jamais devenir condition sine qua non ou maître censeur. Il est ici prié d'être un outil et de se tenir au service. On ne retrouve donc rien chez Joni Mitchell de ces automatismes, de cette raideur qui a défini puis ruiné la guitare folk. Elle est autre dans le sens où elle s'est d'abord préoccupée de verbe et de musique. Un des clichés mensongers sur les artistes comme elle ou Bob Dylan, par exemple, l'autre divin Robert, et qu'ils n'étaient pas réellement musiciens, mais plutôt des symboles, des figures de proue, des rebelles, Dieu sait quoi encore. Erreur. Joni Mitchell est une musicienne colossale, capable de mues incroyables, de transformations à vue d'un côté et d'une totale constance à demeurer sur les cimes de l'autre, comme si elle devenait plus proche à mesure qu'elle nous échappe. Écoutons-la à présent dans Song to a Seagull. Son jeu en arpège s'y produit dans toute sa richesse et l'on est bien ici forcé de songer au piano. Elle en utilise les coulées, les retards à la note, la phrase passerelle en note sol, les blocs harmoniques. Sa guitare ici joue avec le dessin de la phrase pour mieux en concevoir la métamorphose. Song to a Seagull.
City
and down to the seaside, the sun on my shoulders and wind in my hair. But sandcastles crumble and hunger is human, and humans are hungry for words they can't share. My dreams with the seagulls fly out of reach, out of cry. Dives to the waters and catches his silver fine dinner alone, crying, where are the footprints that danced on these beaches and the hands that cast wishes that sunk like a stone? Dreams with the seagulls fly out of reach, out of cry.
Fin de partie donc, comme disait tonton Samuel. Le mois prochain, nous découvrirons le piano et la guitare électrique selon Joni Mitchell, ainsi qu'une image plus globale de sa musique et de ce qu'elle représente. Je vous dis donc à très bientôt. Passez un bon mois et retrouvons-nous vite pour un nouveau numéro de L'Or des Curieux. Mille fois merci à vous. Au revoir.
Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a-ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Up. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. On a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie, waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too, and the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on a day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light, if only you will stay. Pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning.